en passant à un autre pays majeur dans ce tour des pays émergents, qui est l'Inde, qui est beaucoup moins présente dans les préoccupations françaises, sauf peut-être pour les questions d'armement, alors que l'Inde joue un rôle considérable. Son immense culture, son expérience politique plus récente, la grande figure de Gandhi, sont autant d'éléments, puisque nous sommes dans un centenaire, qui ont accompagné ce siècle. Et cette ignorance ordinaire en France sur la situation indienne, j'ai eu moi-même à en prendre conscience lors d'un voyage à la fin des années 90, qui était ma première visite, je pense, en Inde, où, revenant de ce voyage fort impressionné, je me suis demandé combien y a-t-il en France de juristes qui connaissent la situation indienne, qui soit compétent, qui soit... J'ai fait une petite enquête et la réponse était zéro. Ni au CNRS, ni à l'université, nulle part. Bon. Seconde question, je me suis posée, que se passera-t-il si je trouve un thésard qui s'intéresse, qui apprend une ou deux langues indiennes, quelles sont ses chances d'être reçu à l'agrégation de droit privé et de sciences criminelles? Là, statistiquement, je me suis dit, elles sont voisines également de zéro. Parce qu'on dira, ben, on ne connaît pas, on ne peut pas juger, puis c'est exotique, etc. Donc il y a une ignorance qui se reproduit, alors que du côté des collègues indiens que j'avais pu rencontrer, il y avait un intérêt assez grand pour la France, disons plus globalement, pour les cultures juridiques continentales, européennes, d'Europe continentale, qui se heurte à l'obstacle de la langue que nous évoquions tout à l'heure à propos de la situation en Chine. Et donc, tout ce salam alek, c'est pour vous dire que vous avez en face de vous le seul juriste indien qui parle français. Alors, il le doit à son séjour à l'Institut d'études avancées de Nantes. Et il a fait ses études d'abord au Bengale. Et après, il a eu une bourse Fulbright et actuellement, il enseigne à l'université de Victoria en Colombie-Britannique. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette région, c'est une sorte de grande Suisse vue de Chine, hein, puisque la moitié de la population est peuplée de riches chinois. Sur le campus, on entend des étudiants chinois qui se disent « J'ai entendu, mon père vient de m'acheter une décapotable parce que j'ai eu ma licence ». Enfin, ça, c'est Vancouver. Je ne sais pas si je ne suis jamais allé à Victoria. Mais enfin, c'est les avantages de l'Amérique du Nord sans avoir la violence. Ce n'est pas pollué. Enfin, c'est une région merveilleuse. Donc, je vous invite. Qui va être pollué bientôt, je crois qu'il y a des projets de... Il y a un projet de gazoduc ou de... Oui, c'est ça, oui, qui agite beaucoup. Enfin, ce n'est pas de cela que vous allez nous parler aujourd'hui. Je vous remercie encore, Supriya. Vous êtes un récidiviste des interventions dans nos colloques, puisque vous aviez participé déjà à un colloque où vous aviez parlé des politiques de RSE en Inde, qui était un cas d'ailleurs extrêmement intéressant. Donc, ça a été publié dans le recueil, je crois me souvenir, qui s'appelle « Sur l'entreprise dans un monde sans frontières », qui est paru au Dalloz, où vous pourrez lire ce chapitre. Et autrement, il y a un ouvrage intitulé « Enhancing Capability Through Labor Law, Informal Workers in India ». Donc c'est un très bel ouvrage chez Routledge en 2014. Et en français, il y a également une contribution de Supriya Ruth dans les actes du colloque de Cerisy que j'avais organisé il y a 2 ans avec Pierre Musso, sous le titre « Qu'est-ce qu'un régime de travail réellement humain ?» et où il y a un chapitre qui avait été rédigé, d'ailleurs à 4 mains, si on a une métaphore pianistique, avec Pedro Nicoli, donc une approche comparative du secteur informel vu d'Amérique latine et de l'Inde, puisque Supriya a beaucoup travaillé, notamment sur les slams, l'organisation dans ce qu'on appelle l'informel, qui est une notion elle-même très, très informelle, et qu'il nous a aidé à mieux saisir. Mais donc aujourd'hui, vous allez nous parler des constantes et des variables du travail dans la nation bientôt la plus peuplée du monde.
Je remercie professeur Supriya pour l'invitation. Et je remercie également Étienne Nedelec pour son aide avec mon exposé. Comme le professeur Supriya a dit, je vais donner mon exposé en français. Mais quand je donnais mon exposé en français, c'est comme un film à suspense. parce que je ne suis pas sûr jusqu'à la dernier moment que les mots que je vais prononcer, ça va être correct ou non, ou je vais boucher les mots français. Et donc, avoir une poupée chante avec moi. J'ai un peu changé le titre de mon exposé aujourd'hui. Maintenant, cette pépière est intitulée comme le sauvetage de l'OIT en Europe, l'effectif croissant de l'Inde et la subversion de la norme ou les standards. À l'occasion de son centenaire, il existe de multiples raisons de célébrer l'Organisation internationale du travail. L'organisation doit être félicitée des efforts inlassables qu'elle déploie pour maintenir l'amélioration du travail à l'ordre du jour des débats au niveau de l'élaboration des politiques internationales. Bien qu'il soit justifié de célébrer cette réussite de l'OIT, une célébration réflexive et de mise à fin que l'organisation soit tournée vers l'avenir et puis s'adapter aux difficultés que reconnaîtront les travailleurs pour les sons en avenir et au-delà. Ce faisant, je vais chercher à évaluer les efforts déployés par l'OIT vis-à-vis des situations rencontrées par les travailleurs qui ne vivent pas le modèle orthodoxe d'organisation du travail tel qu'il existe dans le modèle industriel. Je le ferai avec comme référence de mandat ouvrier indien. Je soutiens que la façon dont l'OIT conçoit les modalités de travail non orthodoxes et formule les garanties juridiques pour les travailleurs au sein de ces modèles est incohérente et témoigne d'une élaboration fragmentaire des politiques. Je divise mon exposé de deux parties, comme on pratiquait en français. Non. La première partie va être sur l'OIT et la deuxième partie, je vais discuter quelques exemples qui viennent d'Inde. Alors, l'organisation est parvenue à un consensus selon lequel il est utile de distinguer les formes d'emplois atypiques dans la relation de travail standard, qui a toujours été au cours de l'initiative juridique de la normalisation de l'organisation. En élaborant un ensemble substantiel de normes juridiques, l'OIT s'est principalement inspiré d'un cadre contractuel bilatéral formel où, en échange de leur performance contractuelle à long terme, sous la subordination d'un employeur, les employés peuvent faire effectivement vouloir certains droits dans l'employeur et le premier garant. Dans son récent rapport intitulé « L'employé atypique dans le monde identifier les défis ouvrir des perspectives », l'organisation note que ce qu'il appelle les standards est en fait une norme européen qui a émergé au lendemain de la révolution industrielle et qui s'est répandue dans le monde entier par la colonisation et l'industrialisation. Bien qu'elle n'ait jamais pu remplacer les autres moyens d'organisation du travail dans les colonies. Après avoir défini l'idée des standards ou normes, au sens étroit de contrats de travail bilatéral, l'OIT élaborait l'idée de non-standard, contranorme, en termes non exhaustifs, comme diverses modalités d'employés qui se démarquent de l'employé typique, travail temporaire, travail en temps partiel, travail intérimaire et autres relations d'employés multiparties, relations de travail déguisées et employés juridiquement indépendantes, mais économiquement dépendantes. En publiant ce rapport, l'ambition générale de l'OIT est de prescrire des moyens de promouvoir le travail décent pour les employés atypiques. Deux grandes stratégies sont envisagées pour promouvoir le travail décent. Premièrement, que les garanties juridiques pour l'employé normal, typique, soient reproduites dans le contexte de relations de travail atypique. Et deuxièmement, que les garanties juridiques normales soient adaptées aux conditions de travail atypique. L'objectif est toutefois d'offrir aux salariés atypiques dans la même protection juridique que celle dont bénéficient les salariés ordinaires. Ainsi, le modèle typique standard de la norme devient l'objectif normatif de la réglementation de l'emploi atypique. Dans la section suivante, avec l'exemple de l'Inde, je soutiendrai qu'au lieu de propager comme idéal un modèle standard avec les droits qui en découlent, une meilleure approche politique consiste à reconnaître l'hétérogénéité des régimes de travail privé et travers le monde et à faciliter la participation directe des travailleurs au processus législatif à travers lequel les droits seront amenés à refléter les aspirations des travailleurs dans leurs conditions de travail réelles, sans la nostalgie de la norme industrielle européenne. Alors, je vais parler plus précisément par l'Inde. C'était la deuxième partie de mon exposé. De l'avis général des spécialistes, les modalités de travail qui s'écartent de la structure et de la forme industrielle orthodoxe pourraient être identifiées par la terminologie englobante du travail informel. Bien que les modalités de travail puissent être hétérogènes. Dans cet espace informel général, l'OIT cherchait à introduire par le terme atypique une sous-catégorie pour les travailleurs engagés dans les situations de l'emploi salarié et dépendant. L'objectif est de rapprocher cette sous-catégorie de travailleurs des protections légales auxquelles ont accès les travailleurs industriels typiques. En Inde, 90% de main-d'œuvre, y aussi compris les travailleurs agricoles, travaillent en dehors du modèle d'employés industriels orthodoxe, dans ce qu'on appelle le travail informel. En employant le langage de la standard ou norme, même le point d'entrée de l'évaluation du travail décent dans la vie de ces travailleurs devient complètement étranger à leur expérience quotidienne. Une norme irréaliste et étrangère devient l'échelle d'évaluation de leurs droits. En décrivant l'hétérogénéité de la vie d'un travailleur, Ella R. Bhatt, syndicaliste réputée et réformatrice sociale, a fait remarquer que de nombreux travailleurs en Inde passaient au travail indépendant et travail salarié. Souvent, la frontière entre les indépendants et dépendants est difficile à déterminer. Au cours d'une même journée de travail, un travailleur peut passer des éleveurs de chèvres rémunérés à l'heure, ses salariés, à tissu de nattes de couchage quasi indépendante, puis terminer afin de se nourrir dans une idée de subsistance agriculture. À différentes périodes de l'année, d'autres peuvent travailler dans l'agriculture vivrière, puis devenir salariés journaliers dans les autres fermes, travailleurs forestiers indépendants, collectant dans la gomme et autres produits forestiers, ou encore bordure à la pièce attachée à un entrepreneur, etc. Dans un pays où le gouvernement engage régulièrement des travailleurs dans des emplois temporaires et multipartis, parler autant d'une standard ou une norme spécifique semble tout à fait insignifiant et contre-productif. En outre, il existe un lien entre les castes d'un travailleur et certains types de travail, ce qui complique encore davantage les relations contractuelles bilatérales. Par exemple, les travailleurs des castes supérieures considèrent souvent les travailleurs manuels et entretiens comme indésirables ou impieux. Et historiquement, les travailleurs des castes inférieures ont été obligés d'effectuer ce travail. Cette perception est si profonde que, même lorsque les travailleurs des castes supérieures obtiennent un contrat de travail permanent avec le gouvernement, ils obligent les travailleurs des castes inférieures à faire le sale boulot posé par les bailleurs d'un régiment informel. Ainsi, surmonter les contraintes sociales du système de castes, bien qu'il ne s'agisse pas d'un droit européen standard, est une préoccupation centrale pour plusieurs catégories de travailleurs. Il est vrai qu'un niveau global de droits abstraits, tels que la liberté de l'association, la durée maximale du travail, la période de pause, le salarié minimum, le congé payé, la non-discrimination, pourrait peut-être intégrer plusieurs des préoccupations qui sous-tendent les diverses catégories de travail atypiques. Cependant, l'accent mis sur les droits bien enracinés, bien qu'il ne concerne qu'une minorité de travailleurs industriels dans le monde, détourner notre attention des interventions détaillées qui doivent être faites pour faciliter l'amélioration des conditions de la vie d'une grande diversité de travailleurs non industriels. Si nous prenons la liberté de l'association et la négociation collective comme les agendas juridiques, il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont pas importants pour les relations de travail hétérogènes, mais plutôt de reconnaître que l'association et la négociation prennent des formes différentes selon les divers régimes de travail. De même, la question persistante de la discrimination systémique fondée sur la caste de l'emploi, bien qu'il s'agisse d'un programme de discrimination légale, ne peut pas être traitée simplement au moyen du droit à l'égalité de traitement. Elle exige une intervention juridique ainsi que non juridique pour améliorer la condition sociale générale des travailleurs des castes inférieures, une dynamique éducative ainsi que des politiques visant le cycle de la pauvreté économique chez ces travailleurs, une discrimination positive et une augmentation du pouvoir politique des populations des castes inférieures, c'est-à-dire au-delà des travailleurs des castes inférieures. Toutes ces interventions prendront des formes différentes selon les circonstances réelles dans lesquelles elles doivent être effectuées. De plus, en privilégiant la norme ou standard comme la solution vers une vie meilleure, l'approche de l'OIT conduit à une attaque directe contre l'autonomie et l'action des travailleurs. Au lieu de négocier le processus législatif selon leurs propres termes et leurs propres expressions, ils sont chargés de limiter les employés des industriels dans un contrat à long terme. Le fait que cette approche de l'OIT soit plus utile et soit de facto rejetée peut être constaté à la lumière des nouvelles réglementations contextualisées mises en place par plusieurs juridictions à travers le monde, qui incluent ONDE aussi. Le recul de la rhétorique de l'atypicité pour éloigner le régime de travail hétérogène du modèle typique, standard, nous aveuglerait sur le moyen unique par lesquels dans la vie du travailleur. Par celui-ci, il serait alors en mesure d'institutionnaliser l'inventaire des moyens par lesquels leur aspiration véritable pourrait être effectivement réalisée. Une telle approche impliquerait de déconstruire les idées orthodoxes du syndicalisme, de l'employeur et du gouvernement. Il y a donc beaucoup à attendre les célébrations du centenaire de l'OIT. Merci beaucoup pour votre attention. L'employeur et du gouvernement. Il y a donc beaucoup à attendre les célébrations du centenaire de l'OIT. Merci beaucoup pour votre attention.